France Inter.
Le style alpin, c'est pas d'artifice. Donc automatiquement, pas d'oxygène, pas de corde fixe, pas de préparation de la voie, pas de porteur non plus. En gros, on gravit la montagne avec ce qu'on a dans notre sac à dos.
12 pitons, 12 frênes,
un petit carimat, 3 bains,
14 broches,
une tente,
un petit baudard,
petit déjeuner,
midi,
voilà.
Voilà.
Oh putain.
Bravo les gars.
Ça fait presque 3 ans.
Il y a un truc de dingue.
Plus qu'à rentrer à la maison maintenant.
Bonjour Elias Miller-Rioux. Né à Paris, rien ne vous prédestinait à devenir alpiniste et guide de haute montagne. Les randos en famille ne vous auront apparemment pas suffi. À 37 ans, vous enchaînez les ascensions et vous évrez des voies nouvelles dans le monde entier, des Alpes à la Cordillère des Andes. Vous vous êtes attaqué en 2017 pour la troisième fois à un sommet de près de 8000 mètres au Népal avec frayeur et chute de pierre à la clé, accompagné de vos amis le gang des moustaches. Il faudra qu'on parle de ce nom parce que vous avez plutôt une barbe qu'une moustache. Enfin, on y reviendra. Une ascension épique a donné lieu au documentaire Nupcé, l'inaccessible absolu d'Hugo Clouzot, qui est magnifique et présenté au festival Montaigne en Seine. Elias Miller-Rioux, est-ce que vous pouvez déjà nous pardonner cette question et nous dire concrètement ce que ça veut dire qu'ouvrir une voie? C'est un sommet qui a déjà été grimpé par d'autres, mais où on découvre un autre chemin?
Alors, il faut savoir que toutes les plus grandes planètes, les plus grandes montagnes de la planète ont déjà été gravies. C'était la conquête des sommets qui remontait dans les années 50. Et les alpinistes ont toujours voulu, alors après l'ouverture des sommets, c'était ouvrir des itinéraires, des faces. Ouvrir une nouvelle voie.
C'est un graal pour l'alpiniste.
Voilà. Alors ouvrir une nouvelle voie, c'est juste tracer, donner une existence sociale à un chemin sur la montagne. Et c'est déchiffrer l'itinéraire le plus facile qui nous permettra d'aller au sommet de la montagne dans une grande paroi, une grande face. Voilà.
Déchiffrer la montagne, donc. La Nupcé, c'est une montagne voisine de l'Everest, absolument immense. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est devant la montagne, quand elle est dressée devant vous au tout début de l'ascension?
Alors, c'est les plus hauts sommets de la planète, donc c'est très intimidant. Donc, on fait preuve d'humilité, parce que c'est quand même, on va passer une tranche de vie sur cette paroi qui va durer jusqu'à 10 jours.
Même quand vous en avez déjà franchi pas mal, à chaque fois vous restez humble, vous vous dites pas, t'inquiète, j'ai l'habitude.
Alors moi, personnellement, non, c'est pas le cas. Je suis toujours plein d'humilité et de modestie, parce qu'en fait, c'est des montagnes gigantesques et vous, à travers le monde, les gens, à travers les religions, on pose des croix au sommet, on pose les bouddhistes, ils posent des drapeaux, donc les gens les vénèrent, et moi, en tant qu'alpiniste, je les aborde toujours avec un regard, voilà, on se sent petit.
Et quand on renonce à 350 mètres du sommet, comment on se sent?
Et ben,
parce que vous l'avez essayé plusieurs fois de la monter, cette montagne.
On a réussi à la troisième fois cette face du Nupcé. Et donc, c'est difficile. Beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, les années d'expérience. Et arriver à 300 mètres du sommet, c'est très dur, mais on est toujours très loin. Et l'important, c'est de redescendre pour revenir et pour raconter les histoires et recommencer. Et ça, c'est le plus important. Donc là, en l'occurrence, la météo, elle n'était pas bonne pour aller au sommet. Donc on a dû renoncer parce qu'on voulait revenir.
Et on fait quoi? On dit, bon, allez, on n'y va pas. Comment ça prend des heures? Ça prend 2 minutes?
Alors, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Hein. Finalement, l'échec, hein, c'est...
Oui, oui, bah, on connaît. Ouais,
l'échec
ouais.
Est progressif.
Voilà, c'est jamais quelque chose qui arrive comme ça. Pof. Ou alors là, c'est la mort. Mais,
Vous avez dû vous y prendre donc à plusieurs fois. À la troisième fois, vous atteignez le sommet. Vous êtes accompagné de Frédéric Dégoulet et Benjamin Guigonnet, aidez-moi.
Guigonnet.
Vous dites par ailleurs que vous n'êtes pas très à l'aise en solo. C'est quoi l'esprit de cordée pour vous? C'est peut-être d'ailleurs le moment pour nous expliquer pourquoi vous appelez le gang des moustaches.
Alors l'esprit de cordée, c'est la fraternité, c'est des amis. Moi, je les appelle les frères de cordée. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un alpiniste solo parce que je ne me suis jamais senti à l'aise en solo. Et j'aime partager ces moments de vie sur la montagne avec des gens. Après, les gens qui vont chercher le solo, ils vont chercher d'autres expériences, je pense. Pour ma part, c'est plus sur le partage, etc. Et l'esprit d'équipe. Parce que pour réussir le Nupcé, à un moment donné, il faut que tout le monde range son ego de côté et travaille ensemble pour aller vers ce sommet ensemble.
En gros, si je résume, vous êtes un premier de cordée qui a franchi la Nupes.
Alors, attention. Alors, j'avais eu du mal quand c'était sorti cette expression. Parce que, qui a été repris par les politiques, ouais. Parce que moi, j'ai pas cette vision. Je suis guide haute montagne. Alors, j'emmène les gens au sommet des montagnes, bien sûr. Mais le guide, s'il tombe, il y a toujours une corde. il est assuré avec son client. Et c'est le guide et le client, ils sont ensemble vers le sommet. Et donc, c'est un partage et c'est pas un alpiniste héroïque tout seul grandissant au sommet de la montagne avec et tirant tout le monde vers le haut. C'est ensemble, voilà, toujours.
Et alors, faut redescendre à un moment de la montagne, comme de son euphorie d'ailleurs. Vous préparez l'ascension pendant des mois et des mois. Vous n'avez que quelques secondes d'euphorie au sommet. Après, il faut redescendre. Ça vaut vraiment le coup, ces quelques instants de joie, de se fader tout ça. C'est quoi cette joie que moi je ne connais visiblement pas?
Eh ben, moi je vois plutôt ça comme un accomplissement personnel. C'est des parcours de vie qui nous emmènent là. Et ce moment de joie, il est très profond. Par exemple, au Nupcé, si vous regardez le film, il est très, c'est dans la mélancolie, dans la tristesse, parce
vous
que
pleurez.
Ça a été beaucoup de, et toute la corde des pleurs. Et c'est quelque chose de très profond, et que ça reparcourt toute notre histoire de vie, de ce qu'on a grimpé auparavant, de ce qui nous emmène là un jour. Et
vous pourriez encore en pleurer là. Si j'insiste vraiment longtemps.
C'était vraiment un moment magnifique, non? C'était vraiment un moment inoubliable.
On était à 7742 mètres au sommet de la montagne, pas de vent, l'Everest, une vue incroyable, avec des nuages qui sortent, on voit le Tibet, on voit l'Everest juste à côté, les grandes plaines du Népal. On est en apesanteur dans une espèce de nuage de coton avec la montagne, on est cotonneux, on pleure, il y a des filtres de... Enfin, c'est un peu flou, quoi.
Pascal Bruckner, vous-même, vous pratiquez l'alpinisme, la randonnée en montagne. Comment vous vivez la redescente?
Mais moi, déjà, il faut que je monte. Alors, à côté d'Elias, je suis vraiment un bidochon. Je fais des petits sommets. Donc, je n'ouvre pas de voie. J'essaie de suivre péniblement la voie que me trace mon guide. Et c'est vrai que l'ascension, c'est une aventure collective. Je monte jamais seul, parce que j'en serais pas capable. Et dans ce qu'a dit Elias tout à l'heure, il y a une chose vraie, c'est qu'en fait, dans la vie, on a deux expériences de la souffrance qu'on subit, la maladie, les deuils, les chagrins, et la souffrance qu'on choisit. Et la souffrance choisie pour un but précis, c'est-à-dire arriver à un sommet, gravir une paroi difficile, se lancer un défi, ça n'a pas du tout le même sens, parce qu'on convertit cette souffrance en joie. C'est une joie, c'est un bonheur de se dire « j'ai réussi à faire ça ».
C'est pas doloriste de dire ça?
Non, c'est pas doloriste, parce qu'au contraire, on arrive à vaincre sa peur, parce que moi j'ai extrêmement peur au pied d'une montagne, et on la transforme en pouvoir éphémère. Donc on n'a pas vaincu la montagne, ça c'est la blague, on a vaincu de soi-même, sa trouille, ses limites, son âge, et on redescend, et on est euphorique, et en réalité, la redescente est souvent plus dangereuse que la montée, parce qu'on ne fait plus attention. Et il m'est arrivé bien souvent d'être frôlé par des pierres qui tombaient, ou de tomber dans une crevasse, tout simplement parce que j'étais la tête en l'air, et le guide, là, vous dit, arrête de parler.
Tu es trop heureux, Pascal, tu es trop heureux, maintenant, calme-toi.
Oui.
Et pour terminer, Elias Millériou, on parle du danger, là, c'est quelque chose que vous avez toujours en tête. Par exemple, vous avez frôlé vraiment la mort pendant cette ascension, vous décrivez une immense frayeur. Vos prochaines ascensions, elles vont être influencées par cet accident ou pas du tout?
Alors, toujours, en fait, l'alpinisme, c'est une histoire d'expérience. Donc, les expériences de la vie, elles nous construisent, elles nous permettent d'anticiper ces choses à la prochaine aventure. Mais l'alpinisme, c'est fait de plein d'incertitudes. Et donc, ces incertitudes, en fait, à chaque fois, à chaque nouvelle aventure, à chaque nouvelle montagne, il y a des nouvelles choses qui se passent qu'on n'a pas anticipées. Et on a beau tout préparer, en fait, c'est ça l'alpinisme, c'est d'être dans l'incertitude de gérer ce risque, voilà.
La gestion du risque,
voilà.
Merci Elias Millériou, je rappelle que vous êtes alpiniste, guide de haute montagne. On retrouve à louer sur Vimeo un superbe documentaire vraiment nupcé, l'inaccessible absolu d'Hugo Clouzet, qu'on vous recommande très très fort. Clouzot, et à vous aussi, parce que je vous le recommande,
je vais le regarder,
tout de suite. Sur Vimeo.